60%? La question, c'est plutôt quand je vais le manger.
Alors rendez-vous jusqu'au 25 janvier pour profiter de 60% de remise immédiate sur le deuxième pack de ski Rioplay, soit 2,73€ les deux au lieu de 3,90€. Et avec cet achat, obtenez un ticket à gratter du grand jeu. Dans vos magasins U et sur Course U.
Le pack de 4 pots, soit 400 grammes, 3,41€ le kilo des deux transformé en France. Valable pour un retrait jusqu'au 25 janvier. Conditions et règlements sur magasin-u.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Europe 1, il est 14h. Les infos, Margot Siffer.
Bonjour Grégory, bonjour à tous. Surtaxer les bénéfices des grandes entreprises, des chiffrages sont en cours, annonce du ministre de l'économie. Après les mesures dévoilées par Sébastien Lecornu sur le budget, ce n'est pas seulement une demande du PS, fait savoir Roland Lescure. Les municipales, c'est dans 2 mois, le compte à rebours est lancé. On dénombre 83 députés sur un total de 575 têtes de liste, plus d'un parlementaire sur 7 et donc sur la ligne de départ. Une voiture stationnée face au domicile d'un adjoint au maire de Villers-Saint-Paul dans l'Oise ciblée. Un cocktail Molotov a explosé sur le véhicule. Il a été proposé à l'élu la mise à disposition d'un bouton d'alerte. 15 ans de prison pour un homme reconnu coupable de violences volontaires aggravées sur son ex-compagne. Or, il était jugé pour tentative de meurtre. La victime avait vainement tenté de déposer plainte après sa violente agression. C'était en 2022. 3 personnes mises en examen pour vol de câbles en janvier dernier dans les Yvelines et le Val d'Oise. Plus de 4,5 millions d'euros d'avoirs criminels également saisis, dont un château dans l'Oise. Leur jugement est prévu le 24 juin. Le dépôt pétrolier de Saint-Pierre-des-Corps en Indre-et-Loire débloqué. Les membres de la coordination rurale et des jeunes agriculteurs ont levé hier soir leur barrage. Ils y étaient installés depuis mardi. Et les agriculteurs qui protestent évidemment contre le Mercosur. Il sera signé cet après-midi au Paraguay avec la présidente de la Commission européenne. Un moment crucial après 25 ans de négociations. Les Français en soutien au peuple iranien. Plusieurs manifestations prévues cet après-midi, notamment à Paris et Marseille. Dès 15h, ce sera 15h30 à Lyon et 16h à Nantes. La violente répression en Iran a déjà fait en à peu près 3 semaines des milliers de morts. Ne touchez pas au Groenland, slogan des manifestations ce samedi dans plusieurs villes du Danemark et dans la capitale groenlandaise. Hier, Donald Trump a menacé de droits de douane les pays qui ne soutiendraient pas son plan pour s'emparer du territoire. Les négociateurs ukrainiens arrivés ce matin aux États-Unis. De nouveaux pourparlers sont prévus dans la journée à Miami. Parmi les participants, l'émissaire américain Steve Witkoff ou encore le gendre de Donald Trump, Jared Kushner. Retour en France où un hommage populaire sera rendu cet après-midi à Roland Courbis. Les supporters de l'OM accompagneront son cercueil à l'église des Réformés à Marseille. La cérémonie se tiendra dès 16h. L'ancien entraîneur de la Canebière est décédé lundi à l'âge de 72 ans. Et puis, on termine avec du sport et d'abord de la natation et Léon Marchand qui s'est imposé hier au ProSwim Series d'Austin au Texas. C'était sur le 400 mètres 4 nages et cela en 4 minutes et 13 secondes. Côté Rallye Dakar, c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah qui remporte pour la 6e fois cette compétition. C'était au terme de la 13e et dernière étape de cette course mythique en Arabie Saoudite.
Europe 1.
14h03 sur Europe 1, tout de suite, Cœurs et âmes avec Grégory Turpin.
Merci Margot, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité.
Europe 1, 14h15, Cœurs et âmes, Grégory Turpin.
On sait mettre des mots sur une rupture amoureuse, sur une séparation, sur un deuil, mais il y a une blessure dont on parle très peu, celle de l'amitié. Et pourtant, elle peut être dévastatrice. J'ai longtemps cru que la plus grande souffrance en amitié, c'était d'être trahi par un ami. Quand quelqu'un que vous aimez vous déçoit, vous abandonne, vous lâche au moment où vous en avez le plus besoin. Mais avec le temps, j'ai découvert quelque chose d'encore plus douloureux. Le jour où j'ai compris qu'un ami se sentait trahi par moi. Je me souviens très bien de ce moment, l'incompréhension totale, la violence des mots, le sentiment d'injustice aussi, parce que sincèrement, je ne pensais pas avoir fait ce qu'on me reprochait. Et puis, l'impossibilité de revenir en arrière. On essaie de s'expliquer, on cherche les bons mots, on se dit que le temps va arranger les choses et parfois, rien ne revient. Le lien se défait et on se retrouve face à un vide qu'on n'avait pas anticipé. Parce qu'un ami, ce n'est pas juste quelqu'un avec qui on passe du bon temps. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît, qui connaît vos fragilités, vos zones d'ombre, vos combats intérieurs. Alors une question s'impose. Qu'est-ce qu'une vraie amitié ? Est-ce quelque chose de fragile ou de solide? Est-ce un sentiment spontané ou un engagement qui se travaille? Jusqu'où peut aller le pardon? Jusqu'où doit-on tenir? Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié avec Patrick Tudoret, écrivain, essayiste, dramaturge, auteur du Petit Livre de l'Amitié paru aux éditions Salvator. Patrick Tudoret y parle d'une amitié vécue en acte, une amitié qui ne se contente pas de beaux sentiments, mais qui se prouve, se travaille, parfois se traverse dans l'épreuve. À ses côtés, aujourd'hui, Marie Lucignol, comédienne qui incarne sur scène Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour, une pièce écrite par Patrick Tudoret, actuellement à l'affiche, où l'on découvre la figure de Juliette Drouet, femme de l'ombre, amante, muse, mais aussi amie fidèle et confidente de Victor Hugo. Deux regards, donc, qui se répondent, celui de l'écrivain qui réfléchit à l'amitié et celui de l'artiste qui l'a fait vibrer sur scène dans une fidélité vécue jusqu'au bout. Bienvenue dans Cœurs et âmes sur Europe 1.
Grégory Turpin sur Europe 1.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cœurs et âmes. Bonjour Jacinthe.
Salut Grégory.
Tout se passe bien ?
Eh ben écoute, super en ce début d'année.
C'est un beau thème, hein, l'amitié.
Ah, je suis très contente. Ouais, ouais. J'ai hâte d'entendre les retours de chacun et d'avancer.
Bah oui, on commence bien l'année. Antoine de Surmain, tout se passe bien ?
Bonjour Grégory. Oui, tout se passe bien. Très bien, très bien, merci.
Bon, je sais pas si vous avez vu les audiences d'Europe 1 et que nous faisons dans Cœurs et âmes, mais ça fait très plaisir.
Ça se porte pour le mieux, ouais.
Ça se porte pour le mieux avec 71 000 personnes de plus qui nous écoutent depuis 2 mois.
Bravo.
Donc 251 000 personnes qui nous écoutent chaque semaine, ça fait vraiment plaisir. Merci de votre fidélité. Père Stéphane Mayor, bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Bah oui, ça va. Content de vous retrouver.
Bah oui.
J'aimerais être là plus souvent, mais voilà.
Bah oui, vous êtes curé de paroisse.
Ça faisait longtemps.
Voilà. Ça fait longtemps. Donc, je me permets, du coup, de vous souhaiter une bonne année, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le faire jusqu'à présent.
Tout à fait. Bonne année à vous aussi. Et puis, vous avez découvert ce que c'était qu'une grande paroisse dans Paris, avec les fêtes de Noël, avec tout un tas d'activités. Ça a dû être intense.
4000 personnes à Noël, oui, wow. Le soir du 24, ouais, ouais. Où c'était intense, comme on dit.
Voilà. Il y avait assez d'hosties.
Ah, on est organisé, quand même.
Multiplication des hosties, voyons, c'est ça.
Marie-Lucignol, bonjour.
Bonjour, Grégory.
Ça fait plaisir de vous voir dans les studios d'Europe 1.
Mais oui, réciproquement, merci de l'invitation.
Et Patrick Tudoret, bonjour.
Bonjour Grégory, merci de nous accueillir.
Mais on va parler de l'amitié, on va parler de tous vos projets, de théâtre, puis aussi de votre dernier livre, L'éternité montre en main, qui est un peu un journal intime.
C'est le premier volume de mon journal, effectivement, qui est paru il y a quelques mois aux éditions des Belles Lettres.
Alors, à découvrir, vous venez de me l'offrir, donc j'ai pas eu le temps de le feuilleter encore, mais je sens que je vais me régaler. Alors, on va parler de cette amitié. Dans votre livre précédent, vous parliez de ce thème. Pourquoi ça a été important pour vous d'en parler, d'écrire un petit livre qui s'appelle « Le petit livre de l'amitié » ?
Eh bien, quand on m'a proposé justement d'écrire un petit livre dans cette magnifique collection chez Salvator, ce qui m'est venu à l'idée... au bout de 30 secondes, voilà, c'était l'amitié. C'était une pure évidence pour moi. Je suis quelqu'un pour qui le sentiment de gratitude est vital. Mmh. Et l'amitié a fort à voir avec la gratitude. Et sans les amis, ceux qui ont jalonné ma route, mon chemin, je ne serais pas le peu que je suis aujourd'hui. En tout cas, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Je leur dois tant. Amis disparus, mais qui ne disparaissent jamais. Parce qu'ils sont toujours présents, là, à l'esprit. Et voilà, je cherchais d'ailleurs un synonyme à l'amitié, et je n'ai trouvé qu'une expression, mais que je trouve fort juste l'amitié, c'est une promesse tenue.
Mmh. Voilà. Marie Lucignol, c'est aussi une histoire d'amitié entre vous, entre Patrick et vous. Vous jouez ce seul en scène, Juliette Victor Hugo, Mon fol amour, qui a été écrit par Patrick.
Oui.
Comment est née cette amitié entre vous d'abord ?
Eh bien, ça n'était pas au départ puisque je ne connaissais pas Patrick. Mais un jour, j'ai envoyé une petite bouteille à la mer. Je lui ai envoyé un message sur Messenger. Hein, la modernité a du bon. Et suite à une interview radio justement, Patrick parlait de son roman sur Juliette Drouet. Et je lui ai écrit un message. Et moi, Juliette Drouet, c'est un personnage qui m'a toujours beaucoup touchée. Et pour moi, c'était une chance à saisir. Je me suis dit bon, allez, je vais envoyer ce message à cet homme qui a l'air fabuleux. Et il m'a répondu, et à la suite de ça, nous avons collaboré. Enfin, ça a été le départ, justement, d'une amitié.
Une vraie rencontre, effectivement. Et je pense qu'on peut, on peut avoir le coup de foudre en amitié comme on peut l'avoir en amour.
Oui,
tomber en amour, comme on dit à Québec, mais pour ne pas tomber en amitié, justement.
Alors, j'ai demandé à Jacinthe de réfléchir à cette question de l'amitié. Et elle est sûrement retombée dans ses cours de lycée, non?
Exactement. En travaillant, c'est vrai qu'en travaillant sur ma chronique, là, et en parlant avec une amie, justement, de ce beau thème, on s'est rappelé ces cours qu'on avait étudiés ensemble en terminale sur l'éthique à Nicomaque. Alors, est-ce que vous connaissez ces livres? Est-ce que vous savez qui les a écrits?
Aristote,
que je cite dans le livre de l'amitié.
C'est bien, vous suivez. En effet, c'est Aristote, et dans ces livres-là, il en consacre deux, où il philosophe et il analyse l'amitié, philia en grec, qu'il définit comme une vertu indispensable au bonheur. Animal social que je suis, je ne peux m'épanouir seul. J'ai donc besoin d'amis. C'est d'ailleurs, je trouve, un sujet qui est plus qu'actuel, et je dirais même de santé publique. Parce que dans un monde où on pourrait s'attendre à 1000 amitiés foisonnantes au vu de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui accumulent les likes, les followers Insta et tout, on se rend étonnamment compte de la solitude grandissante qui explose de beaucoup de Français qui sont isolés, qui sont sans amis, qui sont sans relations, ce qui les rend parfois sujets à la tristesse, voire aux troubles psychiques de dépression et autres. Alors, faut-il être en contact ou en relation?
Alors, jusque-là, je vous suis, mais alors comment on se fait de bons et vrais amis?
N'allez pas trop vite en besogne, Grégory, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Toutes ces questions, il m'arrive aussi d'y être confronté, et vous aussi d'ailleurs peut-être, chers auditeurs, et je les repose avec vous aujourd'hui. Et j'ai hâte en effet d'avoir vos retours tous pour avancer sur ce grand sujet. Parce que oui, qu'est-ce qu'on doit attendre de nos amis? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'une amitié est vertueuse, en fait?
Alors, on aimerait avoir toutes les réponses à ces questions, mais il n'y a pas une évolution dans notre rapport à tous ceux qui questionnent, justement.
Si, si, bien sûr, on évolue, et je crois d'ailleurs que c'est intéressant parfois de se poser cette question. Qu'est-ce que je vais chercher, en fait, dans telle ou telle relation, dans telle ou telle amitié, et est-ce que c'est bon? Parce que je pense que, oui, voilà, on est appelé à évoluer. Petite, l'amitié me donne confiance, elle me renvoie un miroir, et elle répond à la question « qui suis-je ? » Suis-je accepté? Suis-je aimable? Elle me rassure. À l'adolescence, elle est parfois un refuge face au lourd sentiment d'être incompris, un remède à la solitude face aux questions existentielles. Elle est ainsi un beau lieu aussi d'éducation et de construction. Mais en grandissant, l'amitié peut aussi devenir un lieu d'ajustement qui profite à une amitié qui est plus équilibrée, qui est peut-être plus gratuite. C'est la lecture, en tout cas, que je tire aujourd'hui de mon expérience et de ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donner et recevoir plutôt que d'être dans un rapport plus consommateur.
Jusqu'où on donne en s'y retrouvant sans s'épuiser?
Oui, en fait, ça demande un ajustement dans nos attentes de l'amitié. On n'a pas tous les mêmes réponses face à la question « qu'est-ce que j'attends de mes amitiés ?» Certains nous diront que c'est évident, l'amitié est faite pour rire ensemble et picoler. Quand d'autres trouveront logique que c'est être là dans les moments de joie, de peine. Pour certains, ce sera pouvoir tout se dire dans la bienveillance, se faire grandir. Parfois, ce sera partager une histoire. Ce sera enfin se rejoindre sur des passions communes ou une même vision de la vie, partager une intimité. Et parfois, certaines déceptions, certaines désillusions peuvent venir en fait d'un décalage entre ces attentes. Et avec les années, j'ai compris qu'on ne pouvait tout attendre d'une amitié, que chacune est unique et nous lie différemment, loin d'un désir de fusion. Et c'est souvent dans les situations de faiblesse qu'on se rend compte de ses vrais amis, ceux qui cherchent à écouter avec bienveillance, à comprendre avec tendresse, parfois à défendre avec délicatesse. Ceux qui soutiennent, qui continuent à aimer l'autre tel qu'il est, gratuitement et avec respect, sans volonté de capter et sans jugement. L'amitié, c'est évidemment d'abord un lieu de consolation, mais ça peut quand même aussi être un lieu de potentielle souffrance. Parce qu'à chaque fois qu'on aime, on ouvre notre cœur, et donc on prend le risque d'être blessé. Mais quand même, sans doute, la confiance qui nous permet de nous sentir nous-mêmes, de nous sentir libres avec l'ami, est le signe d'une amitié en bonne santé, d'une amitié constructive et vertueuse.
Alors, il n'est pas acquis de vivre une amitié saine, équilibrée, ajustée. La gratuité, elle n'est pas si évidente.
Oui, c'est vrai. Et comme en amour, je crois que rien n'est acquis. Je pense que l'amitié, elle se construit au fil du temps. Alors, je vous pose la question à vous, Grégory, et puis à toute l'équipe. Est-ce que votre rapport à l'amitié, vous, il évolue? Et est-ce que cette évolution donc, qu'on évoque là, vous, elle vous parle? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir vécu ces passages-là?
Alors, dites-nous.
Il y a une sorte de paradoxe qui fait que je pense qu'en vieillissant, en mûrissant, ce sera plus joli, en mûrissant, il y a une forme d'exigence supérieure dans l'amitié, évidemment. Et à la fois, des indulgences qu'on n'aurait peut-être pas eues plus jeune. Parce qu'on sait que l'amitié est un chemin, et c'est au long cours, c'est un chemin très long, c'est un chemin, c'est une construction. Je me souviens de cette définition de je crois que c'est Grégoire Denis qui disait qu'on venait à Dieu de commencement en commencement par des commencements sans fin. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'amitié et dans l'amour, puisque l'amitié, comme l'ont bien dit les Grecs, est une des formes de l'amour. Alors, rappelons-le, vous avez parlé de la philia, hein, c'est une des formes de l'amour. On trouve l'éros, bien sûr, mais on se trouve la agapé, qui est caritas en latin, bien évidemment, la charité, et puis storgé, qu'on oublie souvent, qui est l'amour familial.
Merci à chacun. Dans un instant, on va continuer cette conversation avec Patrick Tudoré, Marie Lucignol et toute l'équipe de Cœurs et Âmes. Comment vos rencontres, vos amitiés, vos ruptures aussi ont façonné votre regard. On se retrouve juste après la pause sur Europe 1.
Europe 1, 14h-15h, Cœurs et Âmes. Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation hybride rechargeable, pour son autonomie totale allant jusqu'à 900 km ou pour son design emblématique. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. En ce moment, profitez de l'Audi A3 Sportback TFSIe à partir de 390€ par mois sans apport. Réservez votre essai sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Autonomie maximale selon données WLTP. Offre LLD aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 15 février dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Lorsque vous voyagez avec Cathay Pacific, nous ne perdons jamais de vue la qualité de votre expérience. Vous n'aurez donc pas de compromis à faire lorsque vous profitez de nos offres. Bénéficiez de tarifs réduits sur nos destinations Asie et Australie. Les offres Cathay Pacific, allez à l'essentiel.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement, à partir de 359€ par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, motion hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359€. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Waouh, c'est déjà les soldes chez Château d'Axe. Et les soldes chez Château d'Axe, c'est le design italien et le confort. Et à des prix fous jusqu'à moins 50%. N'attendez pas. Et oui, chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Sur articles étiquetés soldes dans la limite des stocks disponibles.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, données WLTP, en option selon version, voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Cerise nous dit pourquoi les pros peuvent compter sur Groupama.
Vous n'êtes pas sur le chantier, Arnaud ?
Oula, non, Cerise. Je viens de raccrocher avec un conseiller pour les sinistres de mon entreprise de plomberie. Et là, je dois en appeler un autre pour l'assurance scolaire de ma fille.
Ça en fait des appels pour être un bon père et un bon patron.
Ah ouais, je mélange tout. Je vais finir par prendre une assurance scolaire à un de mes employés si ça continue.
Rassurez-vous, Groupama est là. Votre conseiller unique gère vos contrats pro et perso avec une vision globale de votre situation.
Oh, ça va me changer la vie, Cerise.
Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Europe 1, 14h-15h, Cœurs et Âmes, Grégory Turpin.
Vous êtes sur Europe 1 dans Cœurs et Âmes. Aujourd'hui, nous parlons de l'amitié avec Patrick Tudoré, écrivain, auteur du petit livre de l'amitié, mais aussi L'éternité montre en main aux éditions Les Belles Lettres, et Marie Lucignol, comédienne, qui incarne Juliette Drouet dans la pièce Juliette, Victor Hugo, mon fol amour. C'est beau.
C'est un beau titre,
c'est
oui.
C'est un beau titre. Patrick, si vous regardez votre vie dans son ensemble, est-ce que vous diriez que l'amitié a été un fil conducteur dans votre parcours ?
Ah oui, vraiment, oui, vraiment. Et le plus vieil ami que j'ai aujourd'hui, eh bien, je l'ai rencontré, j'avais 8 ans, et lui 10. Donc c'est pas mal. Et on s'est perdu de vue pendant 30 ans, et là encore, vertu parfois du numérique, eh bien, il m'a retrouvé par les voies numériques. Et très timidement, en me demandant si je n'étais pas celui qui, si celui qui écrivait des livres, des pièces, n'était pas celui qu'il avait rencontré la guerre. Mmh. Et je lui ai dit, évidemment, gentil crétin, évidemment que c'est moi, revoyons-nous vite.
Parce
qu'il le faisait en marchant vraiment sur des œufs. Et je lui ai dit, mais évidemment, du genre, est-ce que tu te souviens de moi ? Évidemment. Mmh. Enfin, il n'avait jamais cessé de quitter ma mémoire.
Mais est-ce que on imagine souvent l'écrivain un peu seul avec sa plume? Est-ce que vos amitiés aussi façonné votre art? Est-ce que vous avez envie de partager, de dire?
Oui, c'est un. De toute façon, dans tout ce que j'ai la volonté de faire, que ce soit des livres, des pièces, etc., ou l'enseignement, par exemple, il y a cette part de transmission, il y a cette part de partage. On parlait d'agapé, hein, mais effectivement, au Caritas, il y a cette dimension presque oblative, cette volonté de, là encore très humblement, mais de partager avec l'autre, d'aller vers l'autre. Et c'est pas pour rien aussi que j'ai écrit un traité philosophique qui s'appelait le Petit traité de bénévolence, où je travaille sur la bienveillance, qui est un faible mot, je trouve, pour le transformer en bénévolence, et qui est le véritable mot, hein, le mot original. Donc, et dans la bénévolence, il y a une part absolue d'amitié. Et je repense à ce que disait Montaigne de son amitié avec la Boétie, et qui était très beau, tout le monde le sait, mais c'était parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi. Mais dans cette manière de dire, il y a un refus de céder à une forme de rationalisation clinique froide. Au contraire, c'est mettre en avant tout ce qu'il y a de mystérieux, de magique, quasiment, et de superbe. C'est une véritable bénédiction, l'amitié, au fond.
Moi, j'ai envie de penser à nos auditeurs qui, peut-être, se disent que l'amitié, c'est quelque chose d'assez difficile. Peut-être que certains d'entre eux aussi éprouvent une certaine solitude, que ce soit dans la famille, dans les amis. Comment on fait pour qu'une amitié dure? Vous nous parliez tout à l'heure de cet ami que vous avez retrouvé 30 ans après. Qu'est-ce qui fait qu'un lien peut durer?
C'est un travail constant, et je dis bien travail, parce que c'est comme un vêtement de prix, ou la robe magnifique que porte, faite par le costumière que porte Marie dans la pièce, eh bien ça demande un entretien constant, un soin constant, parce que les faux plis arrivent vite, viennent vite, et ensuite ils sont difficiles à faire disparaître. Et donc il faut éviter qu'ils arrivent. Et vous évoquiez les ruptures en amitié, bien sûr que ça arrive. J'ai écrit d'ailleurs, je crois, quelque part aussi, que les amitiés se brisent parfois comme du cristal, ou s'érodent lentement comme un mauvais mariage. Mais c'est vrai qu'il faut déployer des trésors parfois d'amour de l'autre, hein, tout simplement, pour que l'amitié perdure et donne, le dans la pleine acception de ce qu'elle est, donne tout ce qu'elle a à donner, et Dieu sait si c'est magique.
Père Stéphane Mayer, est-ce que ce mot amitié évoque quelque chose chez vous? Peut-être que tout à l'heure on parlera de ce que c'est que cette amitié aussi, Jésus, qu'il a vécu, de ce compagnonnage, mais vous, en tant que prêtre, est-ce que c'est important l'amitié, peut-être entre prêtres, de votre soutien, dans votre ministère? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une amitié avec un prêtre?
Entre prêtres, l'amitié est fondamentale, mais elle n'est pas si facile. Parce qu'en réalité, il y a ce paradoxe un peu particulier, c'est que nous sommes formés dans un séminaire où il y a une vie communautaire qui est assez forte, et où des amitiés se nouent. Mais une fois qu'on est dans le ministère, en réalité, on travaille, beaucoup de curés travaillent en silo, en fait. Et donc chacun est dans son couloir de nage. Et au fond, on se rend compte que pour qui est amitié sacerdotale réellement vécue, au sein des prêtres d'une même paroisse, il faut que, à un moment donné, les tâches se rencontrent, que les métiers se rencontrent. Et c'est pour ça que j'aime bien la définition d'Aristote qui est reprise par Thomas d'Aquin sur ces différents degrés d'amitié, c'est-à-dire qu'il y a aussi un degré d'amitié qui est un degré d'usage, c'est-à-dire que c'est utile d'être amis ensemble, et ce degré-là n'est jamais complètement effacé par la gratuité, qui est tout à fait, bien sûr, ce que Thomas d'Aquin vise comme excellence de l'amitié, évidemment. Mais il faut qu'à un moment donné, on ait une visée commune, et qu'il y ait des projets qui soient menés en commun par les prêtres. Je me bats beaucoup pour ça. Et on n'est pas très nombreux à Paris à essayer de travailler là-dessus. On a la chance d'avoir encore des presbytères avec plus qu'un prêtre. Et c'est un vrai enjeu dans les paroisses où je suis passé. Ça a toujours été un véritable enjeu de travailler ces questions des amitiés.
Ouais. Et même au-delà de ça aussi, il y a des amitiés entre prêtres, évidemment, mais des amitiés aussi avec des prêtres.
Alors, à chaque fois que je passe dans une paroisse, je récupère dans mon carnet d'adresses à peu près 300 à 400 noms. Oui. Et donc, évidemment, je ne peux pas rester ami avec toutes ces personnes-là. Réalité, je veux être tout à fait honnête, ce sont elles qui ont l'initiative. C'est-à-dire que les personnes avec qui je suis resté ami, puisqu'on a des vies de romano, hein, on part dans notre roulotte, on part sur notre paroisse, etc. Moi, je suis même parti en banlieue, vous imaginez, pour des Parisiens, c'était l'enfer, quoi, passer le périph', tout ça. Et donc là, ça a vraiment fait un tri. Et certains sont restés fidèles, entre guillemets, mais les autres n'ont pas été infidèles. C'est simplement que ça a fait un tri, et certains ont gardé cette volonté de rester en contact avec moi. Et pas seulement ce que j'ai apprécié uniquement pour obtenir des sacrements. marier leur fille ou je sais pas quoi, ou leur fils. Voilà. Aussi juste gratos, quoi. Mmh. Et ça, c'est assez appréciable. Et il n'y en a pas tant que ça.
Marie Lucignol, vous incarnez Juliette dans ce spectacle. Juliette, Victor Hugo, mon fol amour. Qu'est-ce que vous avez découvert sur cette femme ?
Alors, moi, ça fait très longtemps que Juliette me trotte dans la tête et dans le cœur. C'est une femme que j'ai découvert, en fait, par Victor Hugo, hein, que j'ai étudié au lycée, puis ensuite à la faculté. Et je suis allée vers Juliette parce que j'ai commencé à lire cette correspondance fabuleuse, parce qu'il y a plus de 22 000 lettres qui ont été échangées, 23 000 entre Victor Hugo et elle. Et c'est en lisant ces lettres que j'étais profondément bouleversée par cette femme, par son humour, sa capacité à entrer en lien, sa spontanéité, sa générosité. Elle avait aussi plein de travers, hein. Elle pouvait être excessive,
comme tous.
Elle était vraiment très humaine et vraiment cette femme m'a, parce que j'ai lu en tout cas, m'a profondément bouleversée, oui.
Bah alors on parle de cette Juliette comme une amante, une muse, mais elle était surtout l'amie fidèle, oui. La confidente.
Oui. Confidente, elle a supporté beaucoup de choses hein, vis-à-vis de Victor Hugo. Et je pense, tu l'as dit justement, Patrick, tout à l'heure, au niveau de l'amitié, mais je pense que Victor Hugo n'aurait pas été Victor Hugo si.
Sans elle,
en fait.
Elle a sa part vraiment dans. Ouais. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu entre l'amour-passion, l'amour fusionnel, fou même, plein de convulsions hein, et de drames et,
oui,
et, de beauté, et de beauté, de volupté. Mais il y a eu aussi cette amitié absolument magique qu'il y a eu entre eux, cette complicité profonde dans l'amitié qui a fait que ça a duré. Et je pense que c'est un des liens les plus forts sur la durée, évidemment.
Alors Patrick, en écrivant Juliette et Marie en l'incarnant, avez-vous eu le sentiment de raconter aussi une histoire d'amitié qui dure vraiment au-delà de la passion et qui forme justement le lien entre les deux et peut-être, comme vous venez de le dire, qui fait que Victor Hugo est devenu Victor Hugo?
Oui, en fait, Juliette, ça a commencé par la passion, c'est sûr. La première lettre qu'elle lui a écrite, c'est « Viens me chercher ce soir chez Madame K. Ce soir, ce sera tout. » Bon, voilà, on peut le lire entre les lignes. C'était assez clair. Ils ont eu vraiment un coup de foudre réciproque. Mais ensuite, ce qui est touchant, c'est de voir que ça a évolué et que Victor Hugo, même de son côté, a pu la tromper avec d'autres personnes. Elle était déjà, elle, la maîtresse, mais ensuite, lui, il a été plus
petit que grand, et ça, on le dit dans
la pièce. C'est exactement ça, c'est ce qu'elle dit. Mais ce qui est touchant, c'est qu'il y a eu cette fidélité, quand même, et dans le temps. Et Juliette a toujours été là, malgré ses petits coups de Trafalgar, on va dire. Elle a toujours été présente, elle lui a sauvé la vie, on peut le dire, oui. Lors de l'exil.
Il l'a dit dans une lettre, il le dit expressément.
Voilà, elle lui a sauvé la vie. Sans elle, Victor Hugo était perdu, et il le dit à plusieurs reprises. Hein. Juliette va fuguer, et Victor Hugo tentera de la chercher, puisque sans elle, il n'est rien, il le dit.
Alors vous jouez cette pièce Juliette, Victor Hugo, mon fol amour au Théâtre des Mathurins tous les lundis soirs. Et puis dans un instant, on va retrouver le père Stéphane Meyer pour prendre un peu de hauteur spirituelle et puis de moralité quand même, parce qu'il n'y a eu pas eu que des choses très...
Il y a pas mal d'adultères.
Oui, c'est ça. Mais il faut toujours savoir qui a commencé.
Voilà.
Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Daniel Balavoine.
Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère.
Une voix, une liberté.
Un destin extraordinaire.
Il était déjà le modèle d'une manière de vivre et d'une manière de chanter qui était très particulière.
Avec Europe 1, découvrez la vie hors norme de Daniel Balavoine.
Avec un témoignage inédit de son frère Guy et les archives exceptionnelles de la radio.
Je le ressens comme la possibilité de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, dans la bonne humeur.
Destins extraordinaires, Daniel Balavoine, raconté par Omblin Roche.
Un podcast à écouter dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prime maximum, certes énergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Chez moi.
Mieux que des soldes chez MDA. Des prix de ouf. Le lave-linge Indesit 8 kg, 1400 tours, 5 cycles rapides est à 299,99€ au lieu de 399,99€. 60€ d'économie. Quantité limitée au stock disponible dans chaque point de vente. Voir conditions en magasin. Soldes du 7 janvier au 3 février.
MDA. Électroménager, literie, cuisine. Des arrivages permanents à prix imbattable. 180 magasins MDA et sur mda-électroménager.com.
Shiva, spécialiste du ménage à domicile, vous souhaite une très bonne année 2026.
Pour bien commencer l'année, Shiva vous offre une semaine de ménage. Oui, une semaine de ménage. Conditions sur shiva.fr.
Shiva, un éclat de magie dans votre vie. Et profitez toujours de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Sous réserve de souscription et selon l'article 199 du Code général des impôts.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 199€ par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500€, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Europe 1, 14h-15h, Kerzéam, Grégory Turpin.
Merci et nous sommes de retour dans Cœurs et âmes sur Europe 1. Merci pour votre fidélité. Depuis le début de cette émission, on parle d'amitié à hauteur d'homme, ce qui construit, ce qui élève, mais aussi ce qui blesse. À présent, j'aimerais qu'on prenne de la hauteur, comme je le disais tout à l'heure, en regardant tout cela avec un autre regard. Le père Stéphane Mayer est avec nous. Est-ce que Jésus est un modèle d'amitié ?
Ah oui, c'est non seulement un modèle d'amitié, mais c'est lui qui a posé l'acte d'amitié le plus abouti, parce qu'en fin de compte, l'amitié, comme on le disait tout à l'heure, se vit dans les actes, c'est pas uniquement un sentiment. Voilà. Et quand il appelle Judas, qui est en train de trahir son ami, et quand il va mourir sur la croix pour lui, il a posé un acte d'amitié ultime, alors malheureusement, on aimerait dire il est plus admirable qu'imitable, mais le problème, c'est que le Christ, il veut qu'on l'imite. Il veut pas juste qu'on l'admire.
C'est pas évident,
c'est ça qui est compliqué.
Ouais. C'est une amitié qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au don de sa vie.
Tout à fait.
Et Jésus dira aimez vos ennemis.
Ah oui, aimez, c'est essentiel. En fait, la question qui est posée aux chrétiens par rapport aux païens, c'est de sortir de la logique de la réciprocité. Donc, on me fait du bien, je fais du bien, on me fait du mal, je fais du mal, qui est au fond la logique assez simple. Et le Christ dit, on me fait du bien, je fais du bien, très bien. C'est pas ce qui vous différencie du païen. Ce qui vous différencie du païen, c'est on me fait du mal, je fais du bien. Et là, c'est difficile. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce. Hein. La religion chrétienne ne méconnaît pas la nécessité de la grâce. Elle n'est pas juste une philosophie de vie. Hein.
Père Stéphane Mayer, le Christ va dire aimez vos ennemis et puis il va aussi dire je ne vous appelle plus serviteur, mais ami.
Oui, tout à fait.
C'est dans Jean, ça. Hein.
C'est dans Jean, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami, car le serviteur ignore ce que fait son maître, alors que l'ami fait partie de la maison. En fait, la différence entre un serviteur et un ami, c'est qu'un serviteur, c'est quelqu'un que je réduis à sa fonction.
Ouais.
Et donc qui va me servir pour faire telle ou telle tâche, etc. Un ami, c'est quelqu'un qui peut m'aider, bien entendu, et souvent l'amitié se vit dans une aide concrète. Hein. Mais, d'une certaine manière, il n'a pas besoin que je lui donne d'instructions pour ça. Parce qu'en réalité, la loi intérieure qui est la mienne est aussi la sienne. Et donc, je n'ai pas besoin d'une loi extérieure qui s'impose à lui. Je n'ai pas besoin de façonner un ami pour qu'il me serve. Car, en fin de compte, quand l'amitié se vit de façon authentique, nos aspirations étant communes, eh bien, ça vient tout seul. Voilà. C'est une seconde nature. Je fais partie de la famille de mon ami.
En vous entendant parler, on repense tous à nos amis, à ceux qui sont proches, à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui nous ont trahis, à ceux qui peut-être que nous avons trahis, comme je disais tout à l'heure en début d'émission. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Marie Lucignol, toutes ces amitiés? Qu'est-ce qu'elles ont fait chez vous? Est-ce qu'elles vous ont façonné? Est-ce que ça a aiguisé quelque chose chez vous? L'amitié, ça sert à quoi, en gros?
Oui, alors l'amitié, ça sert à quoi? Grande question. Alors, pour moi, l'amitié, c'est un partage aussi d'expériences. Je pense que l'amitié se renforce aussi quand on partage une aventure ensemble. Par exemple, avec Patrick, c'est la pièce qu'on a créée ensemble, la mise en scène. Je pense à une amie qui est partie, malheureusement, beaucoup trop tôt l'année dernière et qui m'a édifiée aussi par la manière qu'elle avait de vivre sa maladie, sa joie, et puis le rapport qu'on avait toutes les deux. C'est aussi une force, l'amitié. Ce que je retiens d'elle, c'est sa joie et justement son rapport aussi à la vie et sa manière de rendre grâce chaque jour, malgré le fait qu'elle avait ce cancer et qu'elle savait qu'elle était condamnée, quoi. Et j'avoue que ça, c'est ce qui reste. Et c'est pour ça que l'amitié a quelque chose comme l'amour d'éternel, quelque part. Enfin, on est appelé à l'éternité, donc cette amitié, oui, me rappelle l'éternité, en fait. Me rappelle ce lien à Dieu, en fait.
Ouais. Patrick Tudoret.
Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Marie, et c'est vrai que...
C'est de l'amitié, ça. Ça, c'est
C'est pas toujours le cas.
C'est pas toujours le cas. J'ai parlé vraiment de...
En tant que metteur en scène d'auteur de la pièce, il m'est arrivé de taper du poing sur la table.
Mais j'ai là, aussi des expériences de l'autre côté. Mais...
Je souscris. Et c'est vrai que là, elle parlait d'édification. Mm. Et c'est vrai que faire grandir l'autre et aider l'autre à... Vous savez, c'est le bon sens du mot autorité. Hein. L'autorité, la auctoritas, c'est ce qu'a l'auteur en lui, hein, auctor, voilà. Et ça vient du latin, et ça veut dire augmenter l'autre. On comprend mal l'autorité aujourd'hui. C'est augmenter l'autre, c'est de la bénévolence. Mmh. Et là, effectivement, édifier l'autre, l'augmenter, le faire grandir, tout simplement, ou pour des enfants, les élever au sens le plus fort, c'est-à-dire les prendre en bas et les amener, c'est une élévation en quelque sorte. Et l'amitié, oui, c'est une des formes les plus belles de l'élévation de l'âme, je pense.
Alors, vous abordez quelque chose qui me fait penser que l'amitié aussi, c'est une relation de vérité.
Oui, alors ça, c'est crucial.
Comment on rentre dans cette relation vraie, de vérité? Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand on met en scène, on doit aller rechercher le vrai. Et donc, comment on peut être en vérité avec ceux que l'on aime? C'est pas toujours simple.
Non, c'est pas ça, parce que c'est le Titus de l'opéra de Mozart qui disait qu'il préférerait toujours une vérité qui blesse à un mensonge qui plaît. Et ça, évidemment, ça devrait être, on devrait l'afficher dans sa salle de bain tous les matins pour s'y référer. Évidemment, hein, la vérité qui blesse, mais la vérité et la vie, hein, ça, c'est si important de vérité. Mais c'est difficile, parfois, auprès de ses proches. Mais dans des circonstances extrêmes, je pense que la vérité est toujours la meilleure conseillère. Elle évite beaucoup de désastres.
Moi, j'ai une question, pardon, si je peux me permettre.
Bien sûr, Jacinthe.
C'est peut-être que vous aurez la réponse, mais moi, je me dis comment continuer une amitié, par exemple, si vous faites la vérité sur vous-même, sur les relations et tout ça, mais que l'autre, non.
Oui. Moi, ça m'est arrivé, très concrètement, avec un confrère prêtre, en fait, on était très amis, on l'est toujours, mais à un moment donné, lui avait des problèmes psychologiques, hein, comme ça peut arriver à tout le monde, hein, une forme de dépression, etc., et je sentais que, comme ça arrive parfois avec la dépression, il voulait m'entraîner dans le truc. Hein. C'est très documenté, ça. Et en fait, je sentais qu'il rentrait dans une relation... Il avait trop besoin de moi, en fait. C'était pas bon pour lui. Et donc, j'ai dû mettre de la distance, à un moment donné, en disant, non, stop, on arrête de se voir pendant un temps. Ça a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, notre amitié, elle s'est vraiment ajustée, comme vous le disiez tout à l'heure, Jacinthe, justement. Mais il a fallu prendre ce temps de recul, et c'était nécessaire. Et c'est la vérité de notre relation l'exigeait pour son bien, parce qu'en fin de compte, quand on veut le bien, quand on a un ami, on veut son bien. Et son bien, c'est pas toujours de le garder dans nos basques. Hein.
Oui, parce que c'est comme ça qu'une relation peut devenir toxique.
Exactement.
Et l'amitié se transforme en quelque chose d'enfermant.
C'est comme pour une fracture.
Que vous avez, Patrick Tudoret, aujourd'hui, là, au bras.
Ça fait six semaines, heureusement, et encore pour quelques temps. Mais donc, la réduction de la fracture, c'est ça. Ça fait mal, ça peut faire mal au début, mais après, ça remet les choses dans l'axe.
Bien sûr.
Et c'est une métaphore dont on peut user.
Alors on parle de vérité, on parle de relations qui peuvent devenir toxiques, mais tout ça doit s'accompagner d'une réalité beaucoup plus grande qui nous dépasse et qui est à l'image de Jésus, c'est le pardon. Comment on vit le pardon dans l'amitié, dans nos relations? On a un spécialiste en pardon puisqu'il donne l'absolution régulièrement dans les confessions, le père Stéphane Maillard. Mais est-ce que ce pardon que l'on peut demander à Dieu, comment il peut se vivre vraiment dans une relation lorsque justement ça a été trop loin?
Je pense que c'est... Alors là je vous parle en prêtre, c'est-à-dire que je crois qu'il est très difficile de pardonner à un ami, puisqu'évidemment c'est plus difficile quand la personne est proche, un parfait inconnu qui vous fait une crasse, bon, ça va. Un ami très cher qui vraiment se comporte mal ou qui va vraiment se mettre le foutoir dans votre vie privée, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Je pense que pour reconstituer, en tout cas, la possibilité d'une amitié, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a deux libertés dans cette histoire, c'est pas une décision unilatérale de reconstituer une amitié. Il faut d'abord se référer à la grande amitié qui structure en fait notre cœur. C'est-à-dire que si on n'a pas un axe, un point de départ, on reconstitue pas une amitié dans le vide. Et donc, je pense que saint Thomas d'Aquin dit que la charité, la caritas, c'est l'amitié entre l'homme et Dieu. Et en fin de compte, le sacrement du pardon retisse ces liens d'amitié entre Dieu et nous qui ont été blessés par nos péchés. Et cette amitié fondamentale, je sais que je suis aimé, je sais que j'ai un grand ami dans ma vie, c'est le Christ. Et ça va m'aider à aborder mes amitiés humaines de façon plus paisible. C'est-à-dire que je ne suis pas... Vous savez comment marche le péché originel, Le serpent fait croire à Adam et Ève qu'il est absolument vital pour eux de manger du fruit, qu'ils vont mourir s'ils ne le font pas. Quand on a une réalité dans notre vie autre que le Seigneur, où on se dit, si ce serait intéressant de méditer avec Hugo là-dessus, si je n'ai pas cette réalité sous la main, je meurs, c'est qu'il y a un problème. Personne n'est un aliment pour l'autre.
Bien sûr.
Voilà.
Patrick Tudoret, je reviens sur cette pièce, Juliette, Victor Hugo, Mon Fol Amour, justement, cette relation qu'ils avaient tous les deux, elle était une amitié vraie, profonde, mais un peu toxique.
Il y a eu quelques mensonges de la part, notamment de Victor Hugo, mais je mets une phrase dans la bouche de Juliette à la fin, et que je me dois de citer, elle voit très bien. Bah, tu peux la dire, parce que c'est toi.
Allez, Marie Lucignol.
La dire, laquelle?
Le pardon.
Le pardon... La plus noble conquête.
Est avec le cheval la plus noble conquête de l'homme. C'est vrai que sorti du contexte, c'est difficile. Le pardon donc, est avec le cheval la plus noble conquête de l'homme. Et elle dit ça à la fin, quand elle décide de lui pardonner. Voilà. Et ça, c'est beau. C'est quelque chose, le pardon, c'est quand même quelque chose de...
Elle a beaucoup pardonné, Juliette, quand même. Oui. Durant
qu'est-ce que vous avez appris, Marie Lucignol, sur le pardon
moi,
de Juliette?
Justement, je ne sais pas comment elle a fait. Moi, c'est vrai. Dans cette histoire, il y a quelque chose qui me bouleverse d'autant plus, c'est que je me demande comment Juliette a vécu, quoi. Je veux dire, a vécu ça, parce que ça n'a pas été mince affaire. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à romancer, à idéaliser cette histoire, 22 000 lettres, on se dit c'est rock'n'roll, etc. Mais c'est une femme qui a quand même énormément souffert.
Ça a été rock'n'roll.
C'est une femme
un peu anachronique,
qui a énormément souffert aussi.
Oui,
qui
mais elle a
attendu.
Vécu aussi des choses
bien
merveilleuses.
Sûr. Voilà. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est qu'il y a forcément aussi de la souffrance. Il n'y a pas l'un sans l'autre dans ce genre d'histoire. Et Juliette a eu ces moments où elle a été seule, et c'est pour ça qu'elle lui a écrit aussi beaucoup. Mais au-delà de ça, elle a réussi à passer au-dessus de tout ça parce que sa vie, c'était l'amour qu'elle avait pour cet homme. Et je pense qu'il y a aussi une part de... pas qu'on pourrait dire mon père, mais aussi de sacrifice vis-à-vis de sa propre vie à elle, où elle s'est totalement donnée à cet homme.
J'aime pas trop ce mot, mais pour moi c'est un véritable choix.
Je sais pas quel mot
elle
pourrait
était très
dire,
forte, c'est une femme très forte.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Alors Antoine de Surmain, vous qui voyagez beaucoup, est-ce que vous avez eu des amitiés comme ça sur vos parcours?
Mais écoutez, alors oui, j'ai rencontré des personnes avec qui je me suis lié d'amitié. Maintenant, dans mes amis de longue date pour moi c'est 10-15 ans, il n'y en a aucun qui part en rando, en fait.
Ah mince,
c'est dommage. J'essaye de les tirer et tout. Ils sont chauds pour venir marcher, voilà, le temps d'un week-end. Et puis maintenant, ils commencent à avoir des enfants en plus, donc bon, ça va devenir compliqué. Donc il faut que je continue de marcher pour me trouver des amis, effectivement.
D'accord. On vous retrouve dans un instant, Antoine de Surmain, pour votre chronique. Merci à Patrick Tudoret. Votre livre, Petit livre de l'amitié aux éditions Salvator et L'éternité montre en main. aux éditions Les Belles Lettres. Et puis on vous retrouve aussi, merci Marie Lucignol, Juliette, Victor Hugo, Mon Fol Amour se jouera tous les lundis à 19h au Théâtre des Mathurins à partir du 19 janvier. Merci à tous. Dans un instant, on va recevoir Astrid Cyrano-Sian, violoncelliste engagée aux côtés de l'œuvre d'Orient. À tout de suite dans Cœurs et âmes.
Bonjour, c'est Sonia Mabrouk. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Toutes les questions exigent des réponses.
Sonia Mabrouk, la grande interview, du lundi au jeudi à 8h10 sur Europe 1. Europe
1. La radio libre.
Renault.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160€ par mois avec 5 740€ de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700€. Prime maximum, certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Je suis ta beauté intérieure. Que souhaites-tu ?
Je voudrais une bibliothèque jusqu'au plafond pour ranger mes beaux livres et tous mes objets déco.
Oui.
Sur mesure, multicolore, avec mon bureau intégré et puis aussi des LED. C'est possible ?
Bien sûr que c'est possible. Jusqu'au 14 février et exclusivement chez Arkéa.
Profitez d'une remise de moins 20% sur tous vos projets d'aménagement et laissez enfin s'exprimer votre beauté intérieure. Moins 20% chez Arkéa, c'est du sur mesure pour vous. Voir liste des magasins participants sur arkéa.fr.
Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes, Grégory Turpin.
Et nous sommes jusqu'à 15h dans Cœurs et âmes sur Europe 1. Pour terminer cette émission consacrée à l'amitié, j'avais envie de vous emmener ailleurs, là où l'amitié devient solidarité, où la fidélité se transforme en transmission. Dans un instant, nous recevrons Astrid Cyrano-Sian, violoncelliste engagée aux côtés de l'œuvre d'Orient. Son histoire personnelle, marquée par la mémoire du peuple arménien, par l'exil, parce que les générations précédentes ont tenu à préserver malgré tout. On la retrouvera dans un instant, mais tout de suite... Cher Antoine, chaque samedi, nous vous retrouvons, vous nous racontez des périples en France. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'amitié. Qu'est-ce que ce thème vous a inspiré ?
Ben figurez-vous que moi aussi, je me suis penché sur des échanges de lettres, des échanges de correspondances, un peu rock'n'roll. Pas celle de Victor Hugo, mais celle d'Antoine de Saint-Exupéry. L'autre soir, je me suis plongé dans les lettres de jeunesse à l'ami inventé. C'est un recueil de lettres dans lesquelles l'auteur du Petit Prince adresse à son ami René de Saucine toutes ces expériences dans lesquelles il raconte ses voyages, ses vols en avion au-dessus de l'Espagne, ses expériences au Brésil. C'est l'époque où Saint-Exupéry vit l'épopée de l'aéropostale. En fait, il achemine par avion les courriers entre la France et l'Amérique du Sud à bord d'un Latécoère 28. Et si aujourd'hui faire un Paris-Rio à bord d'un Boeing 777 en un peu plus de 11 heures nous paraît long, bien il faut remettre un petit peu les choses dans leur contexte, car à l'époque, le trajet effectué reliait Toulouse à Barcelone, puis il fallait survoler le détroit de Gibraltar pour entrer en Afrique et survoler tout le littoral du continent jusque Dakar, où le courrier était acheminé ensuite par 11 heures de bateau jusque Natal avant de reprendre un avion pour Rio. Un sacré périple donc pour envoyer une carte postale. Mais dans toutes ses aventures, il relate tout de même quelques anecdotes en France et notamment en Creuse, où il fait une petite pause à Argenton.
Alors c'est vrai qu'on imagine plus facilement Saint-Ex dans son avion au-dessus du Sahara qu'à Argenton-sur-Creuse. Est-ce que vous y êtes allé ?
Et oui, et pourtant il en fait une description élogieuse. Il qualifie la ville d'adorable petit patelin. Il flâne volontiers dans les rues pavées et se pose quelques instants sur le vieux pont de pierre sous lequel coule la Creuse, d'où il raconte comment il perd son chapeau. Ouvrez les guillemets, je l'ai posé à côté de moi et j'ai éprouvé une grande sensation de liberté. Mon chapeau aussi. Il navigue actuellement vers l'Amérique et je l'ai vu lentement s'éloigner, prendre un virage avec intelligence, puis disparaître. Alors j'y suis allé, à Argenton, pas de mon propre gré, mais poussé par un ami qui me vanta un soir la beauté de la Creuse. Et c'est vrai qu'on en parle rarement de ce département situé au cœur de la diagonale du vide. Il est souvent moqué pour son isolement ou son caractère prétendument ennuyeux. Mais il faut savoir faire fi des idées reçues pour découvrir les vrais trésors qu'abrite ce joli coin de France.
Alors racontez-nous quelles sont les bonnes raisons d'aller explorer la Creuse.
Eh bien voyez-vous Grégory, la Creuse ressemble à ces paysages de campagne que l'on peut voir sur les bouteilles de lait. Quelques vallons verdoyants, de belles vaches grasses qui ruminent paisiblement, de vieux villages en pierre où au milieu se dresse le clocher d'une église. C'est cette douceur bucolique qui fait de la Creuse un département à part. Prenez la vallée des peintres par exemple, elle a inspiré les plus grands impressionnistes, Claude Monet, Armand Guillaumin, Léon Détroit, Tous ont été sensibles à la beauté de cette vallée où la Creuse et la Cédelle se rejoignent. Ils ont été touchés par les variations de lumière sur ce paysage. J'y suis moi-même allé un soir après l'orage. Le ciel était noir, mais l'horizon dégagé laissait le soleil embraser les collines. Là-bas, la lumière semble glisser sur le granit. Là où les deux rivières se retrouvent, sur un éperon rocheux, trône la vieille forteresse en ruine de Crozant. Et puis il y a aussi le charmant village de la Selle Dunoise, où l'on peut se promener dans les ruelles pavées, en dégustant un gâteau creusois, une bonne pâtisserie locale à base de beurre et de noisettes. En fait, si je devais comparer la Creuse à un ami, ce serait ce vieil ami, qu'on voit rarement, mais qui est toujours heureux de vous retrouver. C'est pas celui qui se fait remarquer et qui parle le plus fort à table, c'est pas non plus le plus tendance, mais c'est celui qui vous accueillera toujours chaleureusement.
Alors on sait que vous êtes un amoureux, vous aussi, de ce petit patelin de France. Pourquoi c'est important de les découvrir ?
Et parce qu'ils regorgent de trésors, tout simplement, de vieilles églises romanes, des arbres multicentenaires, des traditions ancestrales. Et si vous voulez mon avis, ça devrait presque être un devoir aujourd'hui de visiter et de connaître ces départements et ces villages boudés par le tourisme, car ce sont eux, finalement, qui nous reconnectent vraiment à ce qui fait l'essence de la France.
Merci Antoine, j'aime beaucoup cette image de l'ami discret qu'on ne voit pas souvent mais qu'on est toujours heureux de retrouver. Je pense que ça
on en a tous, hein, je crois.
Ben oui, exactement. Et puis ça fait bien le lien avec le thème de notre émission. Mais tout de suite, on va voyager un petit peu plus loin et on va retrouver Astrid Cyranossian. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler de l'Arménie, vous allez nous parler aussi de l'œuvre d'Orient. Mais tout de suite, j'ai envie qu'on vous écoute jouer. Magnifique, merci pour ce petit moment de grâce sur Europe 1. Alors votre famille porte une histoire douloureuse, celle du génocide arménien. Comment vit-on avec cette mémoire sans qu'elle écrase, mais en la transformant en une force ?
Alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui est riche d'histoire et de culture. Et finalement, dans ma famille, comme dans beaucoup de foyers d'origine arménienne, une manière de préserver et de transmettre aux générations sans forcément le poids du traumatisme et du côté misérable d'un génocide à porter dans une famille.
Bien,
j'ai reçu mon héritage par la culture, par la musique, par la littérature. Et puis par surtout par la chance finalement d'être née en France et puis d'avoir eu le réconfort d'un pays qui nous permet à la fois de pouvoir être dans ma famille, pouvoir parler une langue qui n'est pas forcément le français, et puis de pouvoir aussi avoir une ouverture vers un avenir beaucoup plus beaucoup plus joyeux et tourné vers la liberté et puis la transmission.
Alors vous nous parlez de votre famille, porter cet héritage, c'est quelque chose qui est difficile. Comment vous arrivez à l'extérioriser et à nous le partager ?
Alors je ne sais pas si c'est vraiment difficile puisque j'ai toujours vécu avec, mais je trouve que c'est un bagage formidable, en tout cas lorsqu'on est musicienne comme moi, de pouvoir avoir une histoire et d'avoir dans le sang qui coule dans mes veines une histoire tragique et donc des choses à pouvoir exprimer. L'art permet d'exprimer des choses qui ne sont pas forcément communicables par le verbe et c'est un moyen absolument l'art permet en tout cas de pouvoir transmettre des émotions diverses sans forcément y mettre des mots. Donc, difficile, je dirais pas, mais en tout cas, riche, c'est certain. Et de toute manière, j'ai pas tellement le choix. Mais donc, de partager cela et puis aussi de pouvoir montrer quelque part un exemple pour d'autres générations qui arrivent, elles, de pays, pour une première génération, par exemple, pour un pays meurtri par une histoire, et bien qu'en fait, l'avenir et la vie n'aiment pas le vide. Il y a toujours moyen de pouvoir rendre les choses beaucoup plus lumineuses.
Alors, vous nous le dites, il y a d'autres pays dans lesquels il se vit des drames. Aujourd'hui, vous vous engagez auprès de l'œuvre d'Orient en particulier. Mmh. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui et qui fuient la guerre, les conflits, les génocides ?
Alors moi, mon histoire, alors je suis d'origine arménienne, mais le génocide arménien ayant eu lieu dans l'Empire ottoman, il s'est passé beaucoup de choses géographiquement. Donc mes grands-parents sont nés en Syrie, à Alep, dans des orphelinats qui ont été mis en place par des missionnaires chrétiens. qui n'était pas forcément arménien. Et ensuite, ma mère est née au Liban. Donc, en fait, il y a eu toute une chaîne de solidarité, pas forcément d'ailleurs de personnes d'origine arménienne, mais une chaîne de solidarité. Et je pense qu'il faut jamais oublier, en tout cas, lorsqu'on a les moyens de pouvoir le faire chacun à notre manière, de pouvoir être solidaire. Alors, moi, par la scène, par la musique, par l'organisation de concerts, c'est un moyen, mais je pense que chacun à notre échelle, évidemment, nous pouvons aider, surtout lorsque nous sommes dans des pays aussi favorisés que la France, de pouvoir aider voilà,
exactement.
Un prochain.
Et vous aider de manière très concrète, puisque vous serez le 19 janvier à 20h30 au Folies Bergères, soirée au profit des écoles chrétiennes d'Orient, avec le soutien de l'œuvre d'Orient. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure et qu'est-ce que vous avez envie de donner à travers cette soirée et ce concert ?
Alors j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer l'œuvre d'Orient à travers différentes... le nuit de la lecture ou de différentes occasions. Et puis il y a eu cette idée un peu folle d'organiser dans un lieu absolument génial qu'est les Folies Bergères un concert, enfin une soirée un peu exceptionnelle. Et j'ai imaginé un plateau avec des artistes que j'aime beaucoup, qui sont formidables, mais d'horizons un peu différentes. Donc j'ai un peu imaginé finalement cette soirée comme une grande table ouverte avec différents plats, différents mets un peu orientaux, et finalement il y aura de la musique classique, il y aura de la valse musette avec Félicien Brut à l'accordéon, il y aura Sandrine Saroche, humoriste, Sylvie Chocron, neuropsychologue, Sylvain Tesson qui nous fera également un témoignage. Voilà, donc l'idée c'est finalement que la solidarité elle n'a pas de frontières et que si nous avons tous des valeurs à partager, eh bien nous pouvons tous nous retrouver sur scène et partager au public des horizons et puis des inspirations artistiques différentes.
Alors moi j'ai vraiment hâte d'y être. Astrid Cyranocian, dites-nous, qu'est-ce que fait l'œuvre d'Orient pour soutenir concrètement les écoles ?
Alors, l'œuvre d'Orient a fait des actions immenses sur le terrain, dans beaucoup de pays, et notamment par le soutien d'écoles chrétiennes. Alors, lorsque nous parlons d'écoles chrétiennes, ce ne sont pas des écoles qui s'adressent forcément à des enfants chrétiens. Bien au contraire, de temps en temps, ce sont des écoles tenues par des religieuses ou des religieux et qui sont vraiment destinées à toutes les populations qui sont sur place. Donc, voilà, il y a un nombre de personnes qui travaillent sur l'œuvre d'Orient sur le terrain absolument formidable. Il y a toutes les informations évidemment sur les sites internet de l'œuvre d'Orient pour pouvoir se renseigner et puis soutenir surtout toutes les actions absolument formidables et essentielles qui existent depuis plus de 160 années. Voilà, moi en tout cas l'œuvre d'Orient a eu une place et puis toutes les actions menées par des personnes aussi importantes que l'œuvre d'Orient ont un impact direct, moi, sur ma vie. Donc, je me dis que, voilà, en tout cas, ça impacte maintenant des enfants qui, j'espère, demain auront un avenir aussi joyeux que le mien.
Alors, c'est vrai que nous parlons souvent des chrétiens d'Orient dans cette émission. Nous en avons eu une spéciale en fin d'année avec Fraternité en Irak. J'ai eu la chance d'aller visiter ces écoles et c'est vrai qu'elles sont ouvertes à tout le monde. Elles ne sont pas réservées aux chrétiens, mais par contre, elles sont soutenues par les chrétiens. Et c'est une très belle œuvre. Merci beaucoup, Astrid Cyranocian, d'avoir été avec nous. Et je rappelle cette soirée exceptionnelle qui aura lieu le 19 janvier à 20h30 au Folies Bergères, une soirée au profit des écoles chrétiennes d'Orient sur le thème de l'éducation conçue par vous, Astrid Cyranocian. Les bénéfices seront reversés aux écoles chrétiennes, le Liban, la Syrie et l'Arménie, bien évidemment. Merci infiniment de tout ce que vous faites.
Merci à vous.
Alors, je pense que ça vous parle aussi, cette amitié entre l'Orient et l'Occident, Patrick Tudoré.
Ben c'est fondamental, effectivement. Et donc, il y a... Et Dieu sait si l'Arménie en particulier est un des... On le sait, hein. C'est avec cette religion autocéphale hein, qui est à part, mais qui est un des plus vieux pays chrétiens du monde et qu'on a tendance souvent à oublier. Hein. Heureusement que certains justement font entendre leur voix sur l'Arménie.
Alors mon père, est-ce que les chrétiens d'Orient ont une place particulière dans votre cœur ?
Oui, il y a beaucoup de travail en Orient pour essayer de maintenir vivante la foi chrétienne là-bas, parce que c'est pas la partie facile. Même l'Arménie, qui est un pays de très grande tradition chrétienne, a beaucoup souffert, car elle était, je vous rappelle, l'Arménie n'était pas un satellite de l'URSS, mais faisait partie de l'URSS. Oui. Et il y a une vraie différence dans la déchristianisation entre ces anciens territoires de l'URSS et les pays satellites comme la Pologne, par exemple, où le christianisme a été persécuté aussi, mais ce n'était pas du même niveau. Donc oui, c'est très important. Et c'est important aussi pour les chrétiens d'être présents dans l'éducation, car il y a une façon chrétienne d'éduquer, j'en suis convaincu, et qui est bonne humainement. Hein, donc voilà,
Merci mon père d'avoir été avec nous.
Vous
allez
merci.
Rejoindre votre paroisse.
Mais oui.
Merci Patrick Tudoré. Votre livre, Le petit livre de l'amitié aux éditions Salvatore et L'éternité montre en main aux éditions Les Belles Lettres. Marie Lucignol, merci aussi d'avoir été avec nous. Je rappelle votre spectacle, Juliette, Victor Hugo, Mon fol amour. Se jouera tous les lundis à 19h au Théâtre des Mathurins à partir du 19 janvier. Merci Jacinthe.
Merci Grégory, merci tout le monde.
On se retrouve bientôt. Merci Antoine de Surmain, vous serez là la semaine prochaine.
Et oui, évidemment.
Merci également à toute l'équipe d'Europe 1, à la réalisation Guillaume Vassot, à la production Apolline Marie. Et puis tous les soirs, 7 jours sur 7, de 19h à 21h, retrouvez Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve du lundi au jeudi et par Stéphanie de Muru du vendredi au dimanche. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée avec des invités et les voix d'Europe 1. Europe 1 Soir, de 19h à 21h, 7 jours sur 7 sur Europe 1, la radio libre. Et puis retrouvez notre émission Cœurs et âmes en podcast sur le site europe1.fr ou sur l'application d'Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 14h. Très belle fin de journée à tous. À très bientôt.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Rien de grave, Victor.
Non, Cerise, c'est juste un accrochage. Mais je dois faire réparer ma voiture rapidement et en ce moment, j'ai beaucoup de dépenses.
Rassurez-vous, Groupama est là. Si vous la faites réparer dans un de nos garages partenaires, vous n'aurez pas de frais avancés. Nous les prendrons directement en charge.
Ah, merci, Cerise. Je vais appeler mon conseiller.
Et il vous trouvera le garage partenaire le plus proche de chez vous.
Groupama.
Groupama, toujours là pour moi.
Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties, se reporter au contrat. On peut penser...